Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 5, scène 10. La princesse Marie, retirée chez elle après l'enterrement de son père, n'y avait encore admis personne lorsque sa femme de chambre vint lui dire, à travers la porte, qu'Alpatych demandait ses ordres relativement au départ. Ceci se passait avant sa conversation avec Drun, le bourgmestre. Étendue sur son divan, brisée par la douleur, elle lui répondit qu'elle ne comptait, ni aujourd'hui ni jamais, quitter Bogucharovo et qu'elle demandait à être laissée en paix. Couchée tout de son long, le visage tourné vers la muraille, elle passait et repassait ses doigts sur le coussin de cuir qui soutenait sa tête et en comptait machinalement les boutons, pendant que ses pensées flottantes et confuses revenaient constamment au même sujet, à la mort, à l'irrévocabilité du décret de Dieu, à l'iniquité de son âme, à cette iniquité dont elle avait eu conscience pendant la maladie de son père et qui l'empêchait de prier. Elle resta longtemps ainsi. Sa chambre, orientée vers le sud, recevait les rayons obliques du soleil couchant. Pénétrant par la fenêtre, ils l'éclairèrent tout à coup, illuminèrent le coin du coussin qu'elle regardait fixement, et ses pensées changèrent soudain de cours. Elle se leva machinalement, lissa ses cheveux et s'approcha de la croisée en aspirant instinctivement la fraîche brise de cette belle soirée. « Tu peux donc à présent jouir en paix de la beauté du ciel, » se dit-elle. « Il n'est plus. Personne ne t'en empêchera désormais. » Et, se laissant tomber sur une chaise, elle posa sa tête sur l'appui de la fenêtre. Quelqu'un l'appela de nouveau en ce moment d'une voix affectueuse. Elle se retourna et vit Mademoiselle Bourienne en robe noire bordée de pleureuses, qui, s'approchant doucement, l'embrassa et fondit en larmes. La princesse Marie se souvint aussitôt de son inimitié passée, de la jalousie qu'elle lui avait inspirée, du changement qui s'était opéré en lui, dans ces derniers temps où il n'avait plus souffert la présence de la jeune Française. « N'était-ce pas là une preuve évidente de l'injustice de mes soupçons? Était-ce à moi, qui ai souhaité sa mort ?» À juger mon prochain, pensa-t-elle en se retraçant vivement la pénible situation de sa compagne, traitée par elle avec une froideur marquée, dépendante de ses bontés et obligée de vivre sous un toit étranger. La pitié l'emporta, et, levant sur elle un regard timide, elle lui tendit la main. Mademoiselle Bourienne la saisit, la baisa en pleurant et l'entretint de la grande douleur qui venait de les frapper toutes les deux. L'autorisation qu'elle voulait bien lui accorder de la partager avec elle, l'oubli de leurs différends devant ce malheur commun, serait sa seule consolation. Elle avait la conscience pure, et là-haut, il rendait sûrement justice à son affection et à sa reconnaissance. La princesse Marie écoutait avec plaisir le son de sa voix et la regardait de temps en temps, mais sans prêter grande attention à ses paroles. « Chère princesse, » poursuivit Mademoiselle Bourienne, « je comprends que vous n'ayez pu et ne puissiez encore songer à vous-même. Aussi mon dévouement m'oblige-t-il à le faire pour vous. Alpatych vous a-t-il parlé de votre départ ?» La princesse Marie ne répondit pas. Le vague de ses pensées l'empêchait de comprendre de quoi il s'agissait et qui devait partir. « Un départ ? Pourquoi ?» « Que m'importe à présent ?» se disait-elle. « Vous ne savez peut-être pas, chère Marie, » reprit Mademoiselle Bourienne, « que notre situation est dangereuse, que nous sommes entourés par les Français. Si nous partions, nous serions infailliblement arrêtés. Et Dieu seul sait... » La princesse Marie la regarda stupéfaite. « Ah ! Si on savait combien cela m'est indifférent, je ne m'éloignerai pas de lui. » Parlez-en donc avec Alpatych. Quant à moi, je ne veux rien. Nous en avons causé, et il espère pouvoir nous faire partir demain. Mais à mon avis, il vaudrait mieux rester où nous sommes. Tomber entre les mains des soldats ou des paysans révoltés serait affreux. » Et Mademoiselle Bourienne tira de sa poche une proclamation du général Rameau qui engageait les habitants à ne pas quitter leur demeure et leur promettait dans ce cas la protection des autorités françaises. « Il serait préférable, je pense, de nous adresser directement à ce général, car il nous témoignera tout le respect possible. » La princesse Marie parcourut la feuille et son visage tressaillit convulsivement. « De qui la tenez-vous » dit-elle. « On aura probablement su que j'étais française, » reprit Mademoiselle Bourienne en rougissant. La princesse Marie quitta la chambre sans mot dire, passa dans le cabinet de son frère et y appela Dunyasha. « Envoie-moi, je t'en prie, » lui dit-elle, « Alpatych ou Drone, n'importe qui. Et dis à Amalia Karlovna que je veux être seule. Il faut partir, partir au plus vite. » s'écria-t-elle, épouvantée à l'idée de tomber entre les mains des Français. Que dirait le prince André si cela arrivait? À l'idée de demander, elle, la fille du prince Nicolas Bolkonski, la protection du général Rameau, et de devenir son obligée, elle eut un frisson d'horreur. Dans sa fierté révoltée, elle rougissait et pâlissait de colère, tour à tour. Son imagination lui dépeignait l'humiliation qu'elle aurait à subir. Les Français s'installeront ici, dans cette maison. Ils s'empareront de cette pièce. Ils fouilleront ces lettres pour s'amuser. Mademoiselle Bourienne leur fera les honneurs de Bogoutcharovo. Et moi, on me laissera par charité un petit coin. Les soldats profaneront la tombe toute fraîche de mon père pour voler ses croix et ses décorations. Je les entendrai se vanter de leur victoire sur les Russes. Je les verrai témoigner à ma douleur une fausse sympathie. » Voilà ce que pensait la princesse Marie en adoptant instinctivement dans cette circonstance les opinions et les sentiments de son frère et de son père. Car n'était-elle pas leur représentant et ne devait-elle pas se conduire comme ils se seraient conduits eux-mêmes? Comme elle cherchait à se rendre un compte exact de sa situation, les exigences de la vie, la nécessité, le désir même de vivre, qu'elle croyait à jamais éteint en elle par la mort de son père, l'envahirent soudain avec une violence toute nouvelle. Émue, agitée, elle appelait et questionnait tour à tour le vieux Tikhone, l'architecte et Drone. Mais personne ne savait si Mademoiselle Bourienne avait dit vrai au sujet du voisinage des Français. L'architecte, à moitié endormi, se borna à sourire et à répondre vaguement sans exprimer son opinion, selon l'habitude qu'il avait prise pendant les 15 années passées au service du vieux prince. La figure épuisée et fatiguée de Tikhone portait l'empreinte d'une douleur profonde. Il répondit, avec une obéissance passive, à toutes les questions de la princesse Marie, dont la vue redoublait son chagrin. Enfin, Drone entra dans l'appartement et, la saluant jusqu'à terre, s'arrêta sur le seuil de la porte. « Dronouchka, lui dit-elle, en s'adressant à lui comme à un vieil et fidèle ami. Car n'était-ce pas ce bon Dronouchka qui, lorsqu'elle était encore enfant, lui rapportait son pain d'épices chaque fois qu'il allait à la foire de Vyazma et le lui remettait en souriant? Dronouchka, aujourd'hui, après le malheur qui... » Elle s'arrêta, suffoquée par l'émotion.
« Nous marchons tous sous l'égide de Dieu, »
dit Drone avec un soupir. « Dronouchka, » reprit-elle avec effort, « Alpatych est absent. Je n'ai personne à qui m'adresser. Dis-moi, est-ce vrai? On m'assure que je ne puis pas partir. »
« Pourquoi ne partirais-tu pas, Excellence? On peut toujours partir. »
« On m'a assuré qu'il y avait du danger à le faire, à cause de l'ennemi. Et moi, mon ami, je ne sais rien, je ne comprends rien. Je suis seule. Et cependant, je tiens à quitter Bogoutcharovo sans retard, cette nuit ou demain au petit jour. » Drone garda le silence et lui lança un regard à la dérobée.
« Il n'y a pas de chevaux, je l'ai dit tantôt à Jakov Alpatych. »
« Pourquoi n'y en a-t-il pas ?»«
C'est Dieu qui nous punit. Les uns ont été enlevés par les troupes, les autres sont morts. C'est une mauvaise année. Et ce n'est rien encore que les chevaux, pourvu que nous ne crevions pas de faim. On reste parfois 3 jours sans manger, on n'a plus rien, on est ruiné.
Les paysans sont ruinés? Ils n'ont plus de blé? Demanda la princesse Marie, qui l'écoutait avec surprise.
Il n'y a plus qu'à mourir de faim,
reprit Drone.
Quant aux charrettes, il n'y en a pas.
Mais pourquoi ne pas m'en avoir prévenu, Dronouchka? Ne peut-on les secourir? Je ferai mon possible. Il lui paraissait si étrange de se dire qu'au moment où son cœur débordait de douleur, il y avait des gens pauvres et des gens riches vivant côte à côte, et que les riches ne secouraient pas les pauvres. Elle savait confusément qu'il y avait toujours du blé en réserve, et que l'on distribuait parfois ce blé aux paysans. Elle savait aussi que ni son frère ni son père ne l'auraient refusé à leur serre, et elle était prête à prendre sur elle la responsabilité de cette décision.
« Nous avons ici, n'est-ce pas, du blé appartenant au maître, à mon frère ?»
poursuivit-elle, désireuse de connaître le véritable état des choses.
« Le blé du maître est intact, »
reprit Drone avec orgueil.
« Le prince avait défendu de le vendre. »
« Si c'est ainsi, donne aux paysans ce qu'il leur faut. Je t'y autorise, au nom de mon frère. »
Drone soupira pour toute réponse.
« Donne-le-leur tout, s'il le faut, et dis-leur, au nom de mon frère, que ce qui est à nous est à eux. Nous n'épargnerons rien pour les aider. Dis-le-leur. »
Drone l'avait regardé sans mot dire.
« Au nom de Dieu, relève-moi de mon emploi, notre petite mère !»
s'écria-t-il enfin.
« Ordonne-moi de rendre les clés. J'ai servi honnêtement pendant 23 ans. Reprends les clés, je t'en supplie !»
La princesse Marie, étonnée, ne comprenant rien à sa requête, l'assura que jamais elle n'avait douté de sa fidélité, qu'elle ferait tout son possible pour lui et les paysans, et le congédia sur cette promesse.